France Musique.
Les grands entretiens. Dominique Boutel. France Musique.
Je m'appelle Betsy Jolas. Je suis née le 5 août 1926 à Paris. Et je suis compositrice.
Betsy Jolas, il y a quand même, moi, une question en tant que femme aussi qui m'intrigue, c'est que, en parallèle à cette vie professionnelle, vous avez quand même aussi eu le souhait de vivre une vie de famille, ce qui n'était pas le cas toujours de vos collègues compositeurs qui ne se sont pas tous embarrassés de vie de famille.
Bah oui, il y avait ce côté-là aussi. J'étais partagée, hein.
Oui.
Mais il y avait ce côté-là. J'étais une femme et je devais correspondre, disons, au schéma. Je le souhaitais d'ailleurs. Je le souhaitais. J'aurais été malheureuse si j'avais pas essayé ça aussi. Vous voyez?
Essayer, oui, transformer quand même. Oui.
Voilà, j'ai quand même eu trois enfants. J'ai essayé.
Oui, trois enfants. Donc, comment conciliez-vous?
Oh, bah, ça n'a pas été facile, hein. Ouais. Pas du tout. Mais on a certainement voulu, de temps en temps, de disparaître. C'est ça le problème. Surtout pour la composition, ça prend du temps. Mais vous savez, tout ça, ça a été le problème des femmes en général, qui a été traité merveilleusement bien par Virginia Woolf dans son livre Une chambre à soi. C'est vraiment le problème, avoir une chambre à soi. Les femmes, elles avaient un petit secrétaire dans le coin du salon où elles écrivaient des lettres d'amour, mais elles n'avaient pas de chambre à soi pour travailler. Et moi, j'ai lutté toute ma vie pour en avoir. Même ma famille, parfois, ne comprenait pas. Même mon cher mari ne comprenait pas que j'avais besoin d'une chambre à soi. Et c'est mon ami John Mitchell, peintre, qui lui a dit un jour, mais tu comprends pas qu'elle peut pas travailler dans la chambre à coucher. Et du coup, on m'a construit un petit studio où je suis très heureuse parce que je suis bien concentrée. Thank you. comme beaucoup de femmes d'ailleurs, à ce moment-là, je me disais, je ne peux pas être compositeur. Il n'y a pas de compositeur femme, ça n'existe pas. Celles dont on parlait, je ne voulais pas leur ressembler. Je ne voulais pas être considérée comme une femme compositeur. Et pendant très longtemps dans ma carrière, j'ai refusé tous les concerts consacrés aux femmes. Et j'ai bien fait. À l'époque, c'était pas des bons concerts. C'était une discrimination tout à fait ridicule. Et je me souviens, parmi les premiers concerts importants, j'ai remarqué tout de suite qu'on ne voulait pas mettre ma date de naissance. Tout le monde avait sa date de naissance, sauf moi. Et j'ai fini par dire, écoutez, je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une chanteuse, je suis compositrice. Et à ce moment-là, on disait compositeur. Je ne voulais pas dire compositrice. Et pendant très longtemps, on s'est demandé comment dire compositeur. Non, surtout pas. On disait compositeur femme. C'était grotesque. J'ai dit, mais on va dire, Pierre Boulez est un compositeur homme. Non, il aurait aimé ça, il aurait adoré ça. Voilà. Non, ça a été très compliqué. Il n'y a pas très longtemps que j'ai admis que j'étais compositeur femme. C'est encore un problème. On est un peu seul. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, il faut quand même reconnaître que l'accès de la femme à des œuvres de l'esprit, disons, est tout de même récente. Hein. Alors, il faut être patient. Je ne serai plus là quand ce ne sera plus un problème, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Et ce n'est pas du tout admis partout. Pas du tout.
La solitude de la pionnière, d'une certaine façon.
Je me suis senti très seul pendant très longtemps. Je ne me sentais pas seul au sens d'être triste, d'être seul. Simplement, je constatais que je l'étais. C'est tout. Et ça m'étonnait quand j'y réfléchissais. Mais je n'avais pas le temps de m'apesantir là-dessus pendant trop longtemps. Enfin, j'en prenais mon parti, si vous voulez. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté tout de même au cours des années.
Et cette singularité féminine au sein de ce groupe d'hommes, pensez-vous que ça a joué dans la sensibilité que vous avez eue de percevoir ou de recevoir l'enseignement ou sur votre... démarche de compositrice.
Alors, oui, ça a joué la façon dont j'ai géré ma vie professionnelle. J'avais toujours refusé de figurer dans des programmes féminins, parce que ça me paraissait absurde.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il n'y a pas de raison de séparer les femmes des hommes dans ce métier. Cela dit, j'ai aussi toujours milité en faveur de l'idée que la sensibilité féminine qu'on découvre aujourd'hui est différente. La sensibilité féminine a tendance à passer plus facilement d'une chose à l'autre. C'est ce qu'on attend des femmes, de faire des tas de choses dans la journée. Hein, vous le savez bien. Les hommes, on admet parfaitement qu'ils soient concentrés sur une seule chose. Mm-hmm. Mais c'est peut-être ça la singularité féminine. Mais je pense, alors on m'a souvent demandé s'il y avait un art féminin ou une musique féminine, si on pouvait la repérer à l'oreille. Sûrement pas. Sûrement pas. C'est beaucoup trop tôt d'ailleurs. Il ne faudrait pas le faire. C'est trop tôt. C'est, peut-être qu'on le fera un jour, peut-être qu'on le fera, mais c'est beaucoup trop tôt. Vous savez, il y a si peu de temps que les femmes ont droit à des œuvres de l'esprit, quand on pense que Fanny Mendelssohn n'avait pas le droit de publier, n'ont même pas droit à leur nom. C'est ce qu'implique Virginia Woolf. Elle pense que dans le courant de l'histoire des arts et des écrivains, des musiciens, il y a beaucoup d'œuvres anonymes qui sont des œuvres de femmes.
Mais qui ne sont pas signés.
Voilà. C'est bien possible. Et pendant quelque temps, au 19e siècle, il y avait des femmes qui prenaient des noms d'hommes pour arriver à créer. Donc on vient de loin. On vient de loin, mais ça va venir, ça bouge. Ça bouge. Plus il y en a, mieux ça ira.
Dominique Boutel, Les Grands Entretiens, France Musique.
Une des questions que votre œuvre finalement pose, c'est que vous avez été compositrice à une époque où en effet les influences étaient énormes. C'était un monde très manichéen, ce monde des années 50, 60. Il y avait d'un côté une école, de l'autre côté une autre école, des grosses influences. Est-ce que vous avez le sentiment que ces formes que vous avez rencontrées vous ont influencé ou est-ce que...
Mais bien sûr, que... Oui. Mais bien sûr, oui. Je vous ai dit que je pillais partout.
Oui, voilà. C'est vrai.
Mais oui, mais ça n'a pas été un problème. Je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que c'est influencé par ça ou... Alors, il y a des gens qui, sans écouter mon œuvre, m'ont évidemment déclaré influencé par Millot et par Messiaen, qui avait été mon professeur, mais jamais je n'ai été influencé par Millot ni par Messiaen. Absolument pas.
Pas plus que les autres, disons.
moins que les autres. C'est une vue de personnes qui n'ont pas écouté ma musique.
Mais par contre, vous aviez cette attirance pour tout ce qui se passait autour du domaine musical.
Oui.
Et pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs aspects à la chose. D'abord, il y avait cette rigueur, ce désir de perfection dans l'exécution. Cet esprit de découverte, on apprenait à faire des choses avec les instruments qu'on ne savait pas faire auparavant. Puis est arrivée la virtuosité, enfin, elle est venue d'Italie, en quelque sorte, comme d'habitude, avec Berio notamment. Et là, nous avons été fascinés. Alors, petit à petit, les instrumentistes eux-mêmes sont venus nous demander des œuvres. C'est ça qui était formidable. Ils n'en avaient jamais assez. C'était jamais assez difficile, c'était formidable. Je me rappelle qu'il y a eu la période où nous pensions que nous ne créerions jamais plus des sonates pour piano-violon, des trios piano-violon-violoncelle, que c'était des formations du passé, quatuor à cordes non plus. Boulez avait écrit un quatuor à cordes, mais il l'a interdit pendant des années. C'était du passé. Il s'est trouvé que les quatuors eux-mêmes sont venus nous demander des œuvres. Comment refuser ? Petit à petit, on s'est fait à l'idée que peut-être on pouvait encore écrire des trios piano, violon, violoncelle. Mais je me rappelle le premier que j'ai fait, comme ça, pour les États-Unis. J'avais tellement peur de la réaction du public, voyant arriver ces musiciens, une espèce d'attente d'une musique du 19e, que j'ai commencé par un énorme solo de violoncelle tout seul. Enfin, le violoncelle tout seul qui joue pendant très longtemps. Mais c'est très joli comme idée, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait rentrer les autres ? Il faut bien les faire jouer, ils sont là aussi. Donc j'ai dû résoudre ce problème, mais ça a donné naissance à une œuvre où il y a plein de cadences. Vous voyez, ça a donné des idées, ça. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement flatté à la suite de l'audition de cette œuvre à New York. Elliot Carter m'a écrit une adorable lettre me disant « On dirait pas un trio, comment vous faites ?» Alors ça, vous pouvez pas me faire plus plaisir, évidemment. C'est ce que j'avais essayé de faire, justement.
Quand même quelque chose qui me semble un fil conducteur absolument passionnant dans toute votre œuvre, c'est quand même ce rapport que vous entretenez au texte. Et on a quand même l'impression que cette poésie et la façon dont le texte et la musique peuvent interagir est un peu aussi au cœur des problématiques de composition. Et la poésie semble quand même une source d'inspiration, si on peut dire ça. Pour vous ?
Mais sans aucun doute. Enfin, le texte a pour moi été très important. J'ai écrit même souvent mes propres textes que j'ai mis en musique. C'est un sujet énorme, absolument, que j'ai traité. Alors justement, dans des textes, j'allais dire théoriques, mais c'est pas vraiment le mot qui convient. J'ai même fait une conférence là-dessus que j'ai appelée « Je dis ce que je chante et je chante ce que je dis » au Collège de France. Et c'est quelque chose de fondamental. Et je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi à la chose à partir de mon expérience de la tradition allemande des Lieder, que j'ai donc découvert grâce à ma mère et que j'ai exploré par la suite. J'ai été la première au conservatoire, je crois pouvoir le dire, à analyser Dichterliebe et Winterreise. C'était des œuvres qui n'étaient pas considérées comme très importante. D'ailleurs, la musique vocale n'était pas considérée comme très importante. Et tout ça, ça passe évidemment par la compréhension de ce que c'est qu'une voix, que j'ai traité moi aussi, beaucoup, et tout au long de ma vie, ça c'est encore un énorme sujet. J'ai remarqué assez récemment que mes maîtres, par exemple, Millau et Messiaen notamment, ne m'ont jamais vraiment fait remarquer que la voix n'était pas un instrument comme les autres. Et ça continue. Les jeunes compositeurs ne savent pas écrire pour la voix. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une voix. Moi, je leur dis toujours d'aller voir Mozart, d'aller voir Wagner. Enfin, tous les grands opéras, ce sont des musiciens qui ont compris ce que c'était que la voix. Je suis très frappé on me félicite toujours pour mon écriture vocale. On dit que, belle écriture vocale. Et pourquoi? Parce que j'aime la voix. Il faut l'aimer, hein. Il faut l'aimer, il faut la comprendre. Faut pas la torturer. Mais en même temps, faut lui donner des choses à faire. C'est très compliqué, la voix. Il y a un sens de l'économie, notamment, que les jeunes compositeurs ne comprennent pas. Je reviens toujours à Mozart. Si on regarde, par exemple, l'écriture vocale de Mozart, elle évolue dans un tout petit registre. Finalement, bon, disons une quinte. Et quand il sort de ce registre-là, mais c'est le ciel qui s'ouvre. Et il faut vraiment être très économique avec la voix, sinon elle perd toute son expressivité.
Et la voix est un instrument qui échappe quand même toujours un peu. On écrit pour elle, mais ce corps qu'il a produit, produit une subjectivité qui est bien plus grande que celle des instruments.
Vous avez très bien dit, c'est exactement ce que j'ai remarqué, mais là j'en ai beaucoup parlé aussi de ça, avec mon Quatuor 2. Quand Maddy Mesplé l'a chanté, moi j'avais l'impression d'avoir écrit une partie de violon. Et puis, quand elle l'a chanté, elle m'a livré Maddy Mesplé. Au début, j'étais un peu troublé parce que je n'avais pas contrôlé. Je ne savais pas ce qu'elle représentait, elle, dans ma conception. Et donc, il a fallu que j'admette ce fait. Du coup, l'œuvre qui a suivi, c'était d'un opéra de voyage, complètement différente au point de vue de la recherche, si vous voulez. C'était tout à coup la recherche de la voix chair et sang, la voix comme partie de notre être. Et donc, c'était un opéra imaginaire, tout à coup, de voyage, c'est-à-dire sans voix, en fait. C'est un opéra sans voix. J'avais été très impressionné par un des mouvements de la symphonie Roméo-Juliette, symphonie dramatique, ça s'appelle, de Berlioz, Roméo au tombeau des Capulets. C'est une partie où il n'y a pas de voix et qui, à mon sens, est plus vocale que toutes les parties avec voix. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne peux pas rentrer dans toute la réflexion qui a parcouru toute ma vie, finalement, sur ce problème, puisque j'ai ensuite attribué aux instruments des rôles vocaux. J'ai écrit des leaders pour instruments. Donc, C'est un vaste sujet.
Vous êtes photographe, laquelle à votre avis?
Hector Raymond Simonzaël.
Laquelle ressemble le plus à Hélène?
À Hélène de Troyes.
Laquelle? Reprenons le catalogue. Non, Eurydice, Papa Estrato, Lubrique, vous dites. Même le poids est indiqué 55. J'ai dit, I said, Lustre. 55, Lubrique avec 100.
La musique, donc, ça fait maintenant un petit moment que vous
un petit moment
que vous en écrivez, Betty Jolas. Ça occupe évidemment une place importante dans votre vie, toujours aussi intense, toujours... C'est toujours aussi important pour vous ?
Ah,
ça
oui,
l'est
oui,
plus ?
Absolument. Là, je suis avec vous, là, hier et aujourd'hui, et je me réjouis d'avoir la matinée demain pour composer.
On vous empêche de travailler, quoi.
Voilà.
Voilà. Mais c'est quoi, la musique, c'est une nécessité ?
Ah, total.
Et c'est de quel ordre, cette nécessité ?
Quand je ne compose pas, je suis malheureuse. Il me manque quelque chose. Et de toute façon, je me réveille le matin, j'ai la musique dans la tête. Je commence à réfléchir à des œuvres, soit en cours, soit à venir, qui ne sont même pas commencées. Non, c'est ça qui est difficile à faire comprendre. C'est que c'est une nécessité, mais qui n'est pas toujours du bonheur. C'est parfois vraiment très dur, très très dur, quand on n'y arrive pas. Quand on recommence, c'est ce qui m'est arrivé récemment, là, j'ai recommencé le début d'une œuvre, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon encore. Je ne suis pas sûr. Et je me réveille le matin en y pensant. Et parfois, le calendrier aide à lever le doute, c'est-à-dire que vous êtes obligé de finir, c'est très bien. Ça a peut-être été le cas pour la pièce que j'ai écrite pour Berlin, que j'ai écrite très vite. Et du coup, je suis parti sur des acquis, mais en même temps, j'ai trouvé des choses... Mais peut-être que c'est bon de travailler vite aussi, de temps en temps pour moi. Il faudrait que je me prive de gomme. Vous savez, je cherche toujours et j'espère que je ne cesserai jamais de chercher. Je suis toujours en train d'essayer des choses, de faire des choses que je n'ai jamais faites. Encore aujourd'hui. Et j'ai 90 ans.
Voilà. Mais votre recherche n'est pas la même.
Non, elle n'est pas la même. Mais actuellement, j'ai un grand regret, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire un certain nombre de choses qui demanderaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail. Je suis obligé quand même de vivre sur un certain nombre d'acquis. J'ai quelques acquis quand même. Et surtout, ce qui est bien à l'âge que j'ai, c'est de se rendre compte qu'il y a, à travers toutes les œuvres que j'ai écrites, il y a quand même une assez grosse production. Je compose depuis plus de 60 ans maintenant. Bon, il y a déjà des manières d'être très tôt. Et je me souviens très bien d'avoir hésité à garder certaines œuvres de jeunesse. J'en ai jeté un certain nombre. Hein. Mais par contre, j'ai gardé, par exemple, les 6 mélodies sur des poèmes de Reverdy que j'ai écrits en 48-49 parce que j'y vois déjà des manières d'être que je reconnais. Et aujourd'hui, j'ai comme critère tout simplement de me reconnaître. De me reconnaître dans ce que je fais. Si, quand je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Alors je ne garde pas. Mais là, quand je me reconnais, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas facile, hein.
Pour clore ce portrait en 5 épisodes de la compositrice Betsy Jolas, un extrait de Mots, une œuvre dont elle a écrit la musique et le texte en 1963. Auparavant, nous écoutions un extrait de A Little Summer Suite, une commande que lui a passée l'Orchestre Philharmonique de Berlin en 2016 pour ses 90 ans, que dirigeait Simon Rattle, un enregistrement que l'on doit au Berliner Philharmoniker's Digital Hall, que je remercie. Apparaître en juillet un ouvrage des écrits de Betsy Jolas, De l'aube à minuit, aux éditions Hermann. Merci à Gilles Blanchard pour la réalisation, à Georges Robert, Philippe Bredin et Céline Tranouvelle. Et vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster ces entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.